Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. On est mi-novembre 2019, je suis Patrick Béja, il fait froid, il fait nuit, il fait noir ici en Finlande, mais heureusement, Jeff Clavier qui nous rejoint de la Silicon Valley va nous amener du soleil. Comment ça va, Jeff ?
Eh ben, il fait super beau, super chaud. On est littéralement 10 degrés au-dessus des normes saisonnières, donc c'est pas bon du tout, parce que normalement, maintenant, on devrait commencer à pouvoir dire « il pleut, donc il neige à Tao ». Mais ouais, bonjour à tous et à toutes depuis la Silicon Valley où il fait très très beau aujourd'hui.
Bon, écoute, on va prendre le bon côté des choses et se dire que le réchauffement climatique a aussi, ou les changements climatiques ont aussi des bons côtés, comme celui-là par exemple, et tous les feux de forêt qui envahissent la Californie. Bon, ok, on va essayer de penser à d'autres choses, comme par exemple le premier téléphone mobile pliable qui fait peut-être envie à certains d'entre nous, des changements assez substantiels pour ce qui se passe avec les vidéos destinées aux enfants sur YouTube. Voulez-vous vivre sans Internet? C'est une question à laquelle certains d'entre vous ont répondu, et d'autres petits sujets sympathiques ou moins sympathiques d'ailleurs. Mais on commence bien sûr en remerciant très chaleureusement ceux qui soutiennent l'émission. Aujourd'hui, très spécifiquement, les gens qui soutiennent par Patreon, je voudrais mentionner Cyril Dan, Gérald, Benji Mez, William Nolis, Marie Hollinger, Delépine, Nicolas Dehu, Nathan Nad, Hugues Marquis, Julien Bécamel et Garant. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Et donc, on se lance immédiatement dans le premier sujet, ce fameux Motorola Razr qui avait été rumorisé depuis des semaines, des mois même, et qui est enfin annoncé. Oui, entre parenthèses, j'en profite pour dire que Marion est en vacances, c'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui. D'habitude, elle était avec nous. On lui envoie plein de bises pendant son expédition photo que vous pourrez suivre notamment sur Twitter ou Instagram. Je suis sûr qu'elle en poste plein. Mais oui, donc, ce Motorola Razr, écoute, il y a de nombreux téléphones pliables qui ont été annoncés, certains même sont sortis. Celui-là est un petit peu différent parce que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, essentiellement, c'était des téléphones portables de taille normale qui se dépliaient sur le côté pour créer un écran plus large. On va dire que c'est plutôt ce qu'on a vu. Celui-là, c'est pas tout à fait ça. C'est un téléphone de taille normale qui, lui, se plie au milieu pour faire un téléphone de demi-taille qui mimique un petit peu le fameux Razr, dont il reprend le nom, des années 2000, qui était un téléphone à clapet qui était très, très populaire. Là, il s'agit donc d'un téléphone Motorola, d'écran déplié de 6,2 pouces, donc vraiment un écran de taille tout à fait raisonnable, qui a également un écran, une fois replié, qui est bien sûr beaucoup plus petit, qui sert essentiellement à donner l'heure et les notifications, ce genre de choses. Il fait la moitié de la taille repliée, donc on va dire que c'est un écran qui fait la quart de la taille d'un téléphone normal. Il y a également un seul appareil photo qui sert de selfie, d'appareil photo à selfie quand il est replié, avec ce petit écran minuscule qui fait office de viseur pour les selfies, et d'appareil photo classique quand il est déplié pour prendre des photos de ce qu'il y a devant soi. Il a des performances et des capacités techniques qui sont, on va dire, un téléphone moyen plus, quelque chose de tout à fait respectable, et il sera disponible en janvier aux États-Unis, c'est encore une sortie relativement limitée, pour la somme de $1,500, donc on va dire, allez, à la louche que ça serait à peu près équivalent à 1,500 €, c'est là que le bas blesse un petit peu, mais il faut avouer qu'au niveau technique, au-delà des performances et des capacités classiques, il a une hinge, comment on dit hinge en français?
Charnière. Je suis pas la bonne, Je suis pas la bonne
T'es pas la bonne personne.
Répondre, hein. Désolé. Hein.
Une charnière. Une charnière. C'est une charnière très développée qui, en fait, permet d'avoir un écran qui est quasiment à plat, presque au niveau de la pliure, mais qui maintient une courbure suffisante pour que la pliure ne se voit quasiment pas une fois qu'il est déplié. C'est vraiment très intelligemment fait. C'est plus convaincant que sur le Galaxy Fold, mais c'est quand même un élément mécanique qui est un petit peu plus prompt à l'usure, bien sûr, que sur les autres appareils. Les testeurs ont l'air de dire que c'est plutôt de la bonne, que ça a l'air d'être plutôt de la bonne qualité, mais que bien sûr, il faudra attendre de voir à l'usage ce que ça donne. Alors, voilà pour le petit résumé. Est-ce que c'est un téléphone qui te ferait envie, Jeff ?
Bah, écoute, objectivement, je trouve que le design est très sympa. Et que l'idée d'avoir un truc qui me rappelle le StarTAC et le Razer, parce que ce sont les téléphones qu'on avait quand on a bougé aux États-Unis, donc il y a 19 ans, ce serait rigolo, mais non, j'aurais vraiment peur que la charnière ne tienne pas, étant donné l'usage intensif que je fais de mon téléphone. Et puis bah là, j'ai mon nouveau. iPhone 11 Max Pro, machin, je sais pas quoi là, dans la main. Objectivement, je vois pas du tout la différence avec celui d'avant, mais si ce n'est les trois caméras qui sont sympas. Mm-hmm. Donc non, je reste. Ah. Je reste fidèle à Apple sans être le fanboy que j'étais il y a encore des années.
Mais disons alors, puisque toi, c'est plutôt une question d'écosystème peut-être, si Apple sortait un téléphone de ce type-là, c'est-à-dire qui se replie pour être plus petit, est-ce que c'est, bon, pour un prix qui est peut-être rédhibitoire, mais est-ce que c'est un concept qui pourrait t'intéresser sur le principe? Parce que c'est ça le problème, en fait, je crois. Le problème, c'est qu'on a déjà des téléphones qui tiennent dans nos poches. Donc celui-là, il est plus petit, c'est vrai, c'est quelque chose qui a un intérêt, je crois. Mais il ne tient pas plus dans la poche que les autres. Enfin, si, il tient plus parce qu'il est plus petit. Mais c'est ça un petit peu le problème du concept. C'est que les téléphones qu'on a, ils sont déjà prévus pour tenir dans la poche. Donc est-ce que ça pourrait t'intéresser si Apple sortait un appareil de ce type-là ?
Non, je pense pas, parce que à mon âge avancé, maintenant, j'ai besoin des grosses fontes.
Ah, mais l'écran, une fois déplié, il fait la taille d'un écran de téléphone normal, hein.
Ouais, mais je te dis, même si l'engineering qui est appliqué est de super bonne qualité, etc., tu crées un point de rupture naturel dans le design du produit, et le téléphone est tellement important pour moi que je prendrais pas de risque comme ça, tu vois.
Mécaniquement, c'est ça qui t'inquiète, quoi, qui est.
Voilà. Alors que là, tu vois, j'ai ma barre, j'ai mis un truc de protection qui est super dur, qui je le fais tomber, j'aurais pas de problème, machin, etc. Donc c'est devenu un truc incassable, et j'en ai besoin, parce que si jamais j'ai pas mon téléphone, je suis littéralement perdu.
D'accord.
Donc je pense que peut-être pour mettre dans peut-être des applications plus féminines, ou des gens qui veulent avoir un téléphone plus petit. Je sais pas, je trouve que le design est vraiment sympa. Et je fais absolument pas attention aux téléphones autres que les iPhones. Et celui-là, en fait, j'ai regardé les revues et la presse qui est sortie. Mais même s'ils ont l'air d'avoir fait un bien meilleur boulot que les mecs de Samsung, où c'était une véritable boucherie, j'aurais un peu le souci de
la solidité, quoi, la fiabilité.
Tu dures 3 mois, 4 mois, et puis au bout d'un moment, ça pète, quoi.
Ouais. Bon, à voir, une fois qu'il sera sorti, effectivement, vu l'historique de ce type de téléphone, c'est une préoccupation qui est évidemment légitime. Je dirais que pour moi, et c'est ce que j'ai entendu également des reviews, c'est le premier des téléphones pliables qui commence à nous montrer un petit peu ce que ça pourrait donner dans le futur. Il est plus convaincant que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais le vrai problème, bon, d'une part, il y a le prix, hein, mine de rien, 1 500 $, ça reste quand même quelque chose qui est 50% plus cher que les plus chers des téléphones existants, enfin, le prix de base en tout cas. Mais l'autre problème, oui, c'est que c'est un truc qui est pliable. Alors, si on a des toutes petites poches, peut-être que les autres téléphones ne rentrent pas dedans, mais bon, c'est un écran 6,2 pouces, dans la moitié du footprint, comme on dit en anglais, donc la moitié de l'encombrement, plus ou moins, parce qu'il est très très fin. Bon, une fois qu'il se replie, il est plus épais qu'un téléphone classique, mais quand même. c'est quelque chose qui commence à montrer la voie de ce que pourraient donner les téléphones pliables. Et c'est le premier que, comme tu le dis, on pourrait considérer, nous, fans de téléphones classiques, comme vraiment une alternative. Mais il y a encore une étape avant que ça devienne convaincant. Il y a peut-être quelque chose de plus qu'il doit faire pour nous pour que ça devienne convaincant. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui vont être intéressés et c'est un beau concept, quoi.
Ouais, et c'est bien d'avoir des alternatives et c'est sympa de voir un téléphone avec un design un peu cool, enfin un peu rétro mais un peu cool qui vient, parce que c'est quand même super différent de ce qu'on avait avec le StarTAC et le Razer il y a des années, quoi.
Ouais, bien sûr.
Tout petit écran au-dessus, machin, etc. Donc c'est bien.
D'ailleurs, il y a même le mode rétro qui simule le Razer de l'époque sur l'écran touchscreen classique, quoi. C'est assez marrant. Un autre sujet que je voulais évoquer, c'est tous ces changements qui se passent avec YouTube et les enfants. Vous en avez peut-être entendu parler, il y a encore des gens qui grommellent un petit peu sur YouTube, qui se plaignent de ces nouveaux changements. Et je pensais qu'il serait intéressant de vous détailler pour que vous compreniez, hein, le but de l'émission, c'est aussi toujours de comprendre ce qui se passe, même si ce n'est pas des trucs sexy comme des nouveaux téléphones pliables. Il est important de comprendre ce qui se passe pour comprendre le monde, comme je le dis toujours. En l'occurrence, c'est le résultat d'un accord entre YouTube et les autorités américaines parce qu'ils faisaient du ciblage publicitaire sur des enfants par défaut, parce que même si leurs conditions d'utilisation disent que les utilisateurs doivent avoir 13 ans ou plus pour utiliser le site, et bien évidemment, il y avait non seulement plein d'enfants qui l'utilisaient, mais en plus, énormément de contenus qui étaient clairement destinés aux enfants. Des contenus, soit des contenus animés, des dessins animés comme ça. D'ailleurs, il y en a certains qui sont bien bizarres, comme on en a parlé dans l'émission. Mais aussi, des contenus qui sont des enfants qui font des choses, qui font des reviews de jeux et de jouets et de choses comme ça. Donc, clairement destinés aux enfants, parce que c'est fait d'une manière, c'est pas genre fait pour que les parents, en tout cas pas tous, pour que les parents puissent décider quel jouet acheter à Noël. C'est vraiment destiné à l'attention des enfants. Donc, ce qui s'est passé, c'est que YouTube a envoyé cette semaine, ou la semaine dernière, une série d'emails à tous ses utilisateurs, leur disant qu'ils doivent décider lesquelles de leurs vidéos sont destinées aux enfants et lesquels ne le sont pas. Et ils peuvent bien sûr mettre ce paramétrage au niveau de la chaîne entière, mais YouTube a bien précisé qu'ils ne peuvent pas donner de conseils juridiques. Tout ça fait partie de leur accord avec les autorités américaines et que donc les vidéos qui seront désignées comme étant destinées aux enfants, eh bien, n'auront plus de ciblage dans la monétisation. C'est-à-dire que les pubs ne seront plus ciblées. Elles seront simplement des pubs qui sont affichées de manière pas aléatoire, mais enfin si, c'est affiché à un spectateur de YouTube. Alors bien sûr, ça fait une baisse de revenus. Il y a d'autres fonctionnalités qui n'existeront plus dans ces vidéos. Les commentaires et d'autres écrans de fin qui vont vous envoyer vers une autre vidéo. Donc il y aura moins de suivi d'un spectateur d'une vidéo sur l'autre pour l'encourager à regarder plus de choses, etc., etc. Les écrans de fin que peuvent utiliser les chaînes pour mettre d'autres vidéos en avant. Et ce changement a créé un mécontentement de ces créateurs parce qu'ils disent, bon, il y a deux choses. D'une part, certains contenus, on n'est pas sûr de s'ils sont destinés aux enfants ou pas. Il y a du contenu qui est du contenu de jeux vidéo, de vlogging de famille ou des reviews de jouets qui sont peut-être pas spécifiquement destinés aux enfants. Là, c'est un petit peu la zone grise. Et les créateurs disent, nous, on est un petit peu dans la merde parce que si on choisit mal, la FTC peut venir nous voir, nous spécifiquement. Ils ne vont pas aller voir YouTube et ils peuvent venir nous voir, nous spécifiquement, et nous mettre des amendes, etc., etc. C'est intéressant de voir cette réaction parce que, pour moi, la situation là est une correction d'une situation qui était anormale jusqu'à maintenant. Et YouTube expliquant au monde qu'ils sont une plateforme intermédiaire depuis des années et des années, et le monde leur voulant les rendre responsables de ce qu'ils hébergent. Aujourd'hui, qu'il y a eu un accord avec, c'est la FTC dont on parle, la Federal Trade Commission, donc l'autorité qui régule ce genre de choses aux États-Unis, il y a eu un accord et une obligation pour YouTube de procéder de la sorte, et le fait qu'ils se désengagent de par l'accord, qu'ils se désengagent de ce type d'activité, eh bien, les créateurs sont donc du coup responsable de ce qu'ils produisent. Et c'est un petit peu comme quand on parlait des questions de droit d'auteur et que je disais, bah, du coup, les créateurs vont... Enfin, certains créateurs disaient, ah ben oui, mais on est donc à la merci des ayants droit parce qu'on ne peut plus utiliser un petit morceau de musique ou un petit morceau de quelque chose pour illustrer nos vidéos. Et moi, je disais, c'est vrai. Mais peut-être que c'est la situation d'aujourd'hui où on peut utiliser ce genre de choses un petit peu sans vergogne qui est anormale. Il est tout à fait possible aussi de considérer YouTube comme une plateforme de création et de se dire bah, chaque créateur est responsable de tout ce qu'il produit. Alors évidemment, ça change la nature de la plateforme et c'est le cas aujourd'hui aussi pour le contenu destiné aux enfants. Mais chaque créateur, il me semble pas anormal que la FTC... s'adresse directement aux créateurs plutôt qu'à YouTube si elle a des problèmes avec ce qu'ils produisent. Alors, évidemment, la FTC, c'est une petite agence gouvernementale. Ils ne vont pas aller voir chaque créateur individuellement, donc il est probable qu'ils en prennent deux ou trois au hasard, qu'ils fassent des exemples. Mais en même temps, c'est quelque chose qui ne me paraît pas complètement hors propos quand on est dans un contexte tel que celui-ci, et surtout vu les abus qu'on a vus jusqu'à maintenant, parce qu'il ne faut pas se mentir, la raison pour laquelle le contenu pour enfants sur YouTube était tellement prolifique et tellement rémunérateur, c'est que ça court-circuitait les réglementations sur le contenu à destination des enfants. Donc le fait que ça fasse un petit réajustement des choses, moi, me paraît normal et me paraît naturel. Jeff, je ne sais pas si tu as un avis sur la chose, ou je sais qu'aux États-Unis, on n'est généralement pas très pour tout ce qui est régulation. Là, c'est l'application de régulation peut-être existante. Mais est-ce que toi, tu comprends la réaction des créateurs qui vont se sentir un petit peu menottés, ou tu es plutôt du côté régulation sur ce coup?
Bah, je pense qu'on demande beaucoup ces jours-ci à la tech. Enfin, le gouvernement est en train de passer beaucoup de temps à essayer de réguler la tech, et il y a des appels des candidats démocrates de casser Google, casser Amazon, casser Facebook, surtout les E3N. Donc là, je pense que c'est une approche qui a du sens. YouTube, c'est une plateforme, et donc le fait qu'il le réitère, ça me paraît tout à fait logique. Mmh.
C'est ça qui est le plus intéressant au final dans cette histoire, c'est que pour une fois, sur un truc, YouTube dit, oula, alors, enfin non, ils le disent tout le temps, mais là, c'est comme ça que ça va marcher. Ils disent, bon, nous, on est une plateforme, on héberge vos trucs, mais vous en êtes responsables. Et on n'a pas arrêté jusqu'à maintenant de leur dire, ah oui, mais non, vous devez faire plus, vous devez faire plus, vous devez faire plus. Et sur ce coup-là, bon, entre les régulations et ce qu'eux ont décidé, c'est de s'en laver les mains, ils se retrouvent à en faire moins. Ce qui, ouais, on est d'accord en fait, c'est pas tellement une mauvaise idée, je crois. Enfin, bonne ou mauvaise idée, je sais pas, mais c'est naturel comme évolution, et c'est surprenant que ça arrive pas plus souvent, que YouTube se lave les mains des trucs, quoi. Encore que ça serait tellement le Far West sur certaines choses s'ils n'intervenaient pas un peu, et là ils continueront à intervenir dans une certaine mesure. Donc voilà pour cette histoire de créateurs de contenu pour enfants. Et puis, en regardant tout ça et en voyant encore une fois un changement qui me paraît cohérent, qui provoque l'ire de certains internautes, en l'occurrence les créateurs de ce type de contenu, je me suis rendu compte, sur ce sujet et plein d'autres, qu'on a vraiment de plus en plus de gens, et ce sentiment latent qui se généralise, que en fait, la tech a peut-être apporté des choses intéressantes, mais elle a quand même apporté énormément de problèmes aussi. Et c'est une manière vraiment simpliste de voir les choses. Mais ça m'a donné envie de poser une question aux patriotes, notamment, et une question sur, bon, on se plaint de la tech, et on s'en plaint tout le temps, Mais est-ce qu'on s'en plaint à un point où on serait prêt à se dire « c'était tellement mieux avant que je voudrais y retourner à avant ?» Alors, pas forcément retourner aux années 80-90, mais se dire « on voudrait vivre sans tech ». Et évidemment, sur un panel comme les auditeurs du Rendez-vous Tech et à plus forte raison sur les gens qui soutiennent l'émission, je me suis dit « c'est pas un panel très représentatif, évidemment », comme l'a d'ailleurs fait remarquer Nero dans les commentaires. Mais il n'empêche, j'ai pensé que ça serait intéressant de poser la question. J'ai divisé en deux catégories les gens qui ont moins de 30 ans et les gens qui ont plus de 30 ans. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je me suis dit, à moins de 30 ans aujourd'hui, les gens qui vont répondre n'ont pas vraiment connu le monde sans la tech. C'est à peu près 30 ans. Hein. J'avais dit 13 ans en l'an 2000. Donc les gens qui ont moins de cet âge-là n'ont pas vraiment connu le monde sans tech. Et au-dessus, bah, c'est des gens qui ont vécu vraiment une partie substantielle de leur vie sans tech, donc qui connaissent. Eh bien, il y a eu, d'ailleurs j'étais surpris, il y a eu 20% de réponses de gens qui ont à peu près moins de 30 ans, donc je n'étais pas sûr qu'il y aurait tellement d'auditeurs et surtout de soutiens de patriotes qui répondraient, enfin qui seraient sous cette tranche d'âge, mais 20% d'entre eux sont dans cette catégorie et 20% d'entre eux voudraient vivre sans tech. Donc, c'est parmi des gens qui écoutent une émission spécifiquement tech. C'est intéressant de voir qu'il y en a 20% qui voudraient vivre sans tech. Et dans l'autre groupe, dont les 80% qui ont plus de 30 ans, on tombe à seulement 10% d'entre eux qui voudraient vivre sans tech. Et bon, ce n'est pas une quantité significative statistiquement. On a eu à peu près presque 250 réponses quand même, mais... C'est marrant de voir qu'il y a dans le groupe des gens qui n'ont pas connu la vie sans tech, deux fois plus de gens qui voudraient vivre sans que dans le groupe de ceux qui ont connu la vie sans tech. Je ne sais pas vraiment exactement quoi en faire. Il y a quelques commentaires intéressants, mais moi, j'ai trouvé ça très drôle que parmi ceux qui n'ont pas connu cette vie, il y en ait plus qui se disent « Ah, mais ça serait tellement bien de vivre sans tech. » Jeff, toi, j'imagine que je connais la réponse. Hein, vivre, abandonner Internet et ton smartphone, ça ne serait jamais de la vie, non ?
Bah, je sais pas comment je ferais parce que par définition, mon job et ma passion, c'est de financer l'innovation technologique. Donc, je sais que quand j'avais l'âge de 14 ans, je voulais être chef de cuisine et on m'a dit à l'école, non, t'as des trop bonnes notes, donc va faire des maths et de la physique. Donc, on sait jamais, peut-être que j'aurais fini quelque part bien dans un restaurant.
Mais oui.
Mais non, je pense que c'est... Je pense qu'on doit trouver un moyen de ne pas être esclave de la tech, et ça, je suis complètement d'accord. Et donc, trouver des moyens d'avoir des moments sans tech, du genre quand tu es au restaurant avec ta chair et tendre, tu planques les iPhones et tu te regardes dans les yeux et tu as une discussion plutôt que de regarder ton téléphone et d'à peine faire attention à la personne qui est en face de toi, comme tu vois si souvent dans la vallée. Donc,
vraiment pas... Attends, excuse-moi, je t'interromps, mais ça existe vraiment, genre au resto, des gens qui sont à deux et qui sont plongés dans leur téléphone ?
Ils sont plongés dans leur téléphone, oui. Je l'ai vu très terrible. Souvent en Asie, mais je le vois ici, à San Francisco, sans arrêt.
Parce que j'ai l'impression qu'ici, ouais, en Europe, c'est pas, quand même pas à ce point-là, quoi.
Bah écoute, je sais pas si c'est à ce point-là, mais ça me choque parce que bah par définition, quand tu sors au restaurant avec des amis ou avec ton conjoint, bah c'est pour passer du temps ensemble et pour discuter,
oui, non,
et pas plonger dans un téléphone. Donc trouver un moyen de ne pas être esclave, absolument, mais je veux dire, c'est quand même à mon sens un facteur de progrès et d'avancée. Et revenir en arrière, ne serait-ce que, tu vois, se retrouver avec un StarTAC ou un Nextel biband GSM et CDMA comme j'avais, qui pesait littéralement une tonne, comme j'avais comme premier téléphone quand je suis arrivé ici. Franchement, je ne voudrais pas revenir en arrière. Hein.
Ouais, c'est marrant. Donc, parce que je pense qu'il y a beaucoup ce sentiment. Bon, il y en a quand même 10% qui disent... qu'il voudrait revenir en arrière. Évidemment, c'est une manière de voir les choses, comme je le disais, très binaire. Hein, et plusieurs l'ont dit dans les commentaires. Tom, notamment, a dit c'est comme tout, utilisation versus disponibilité, discipline, remise en question des usages versus l'enfer, c'est les autres. Oui, effectivement. Il y a une sorte d'équilibre à trouver. il y a...
Tu vois, juste un exemple, ça, il y a 15 jours, j'ai craqué, j'ai pris une ligne à 1 giga à la maison. Je n'ai pas besoin d'une ligne à 1 giga, mais putain, qu'est-ce que c'est rapide.
Ah oui, non, mais c'est sûr que c'est toujours difficile. Je pense que la plupart des gens qui se disent « je voudrais vivre sans tech », ça leur manquerait très vite. Maintenant, il y en a peut-être quelques-uns aussi qui pourraient. Mais il y a deux commentaires que j'ai trouvés particulièrement intéressants. D'une part, Arthur Cornillo qui a dit « juste si on pouvait supprimer le bouton « j'aime » et du coup la satisfaction qui y est associée, le petit hit de dopamine, notre monde s'en porterait sans doute mieux ». Et tout le reste, je garde. Lui aussi, il dit qu'il faudrait pouvoir choisir, évidemment. Mais c'est marrant parce que ce bouton « j'aime », on se dit, mais si on pouvait juste supprimer ça, tout irait mieux. Le problème, c'est qu'on assimile le bouton « j'aime » aux autres. Hein. Tous ces signaux qui nous montrent ce qui a du succès ou pas, ces algorithmes, sans ces algorithmes, l'Internet tel qu'on le connaît, je crois, n'existe pas. On pourrait se dire, ah bah tant mieux, ça serait plus simple. Mais je suis pas sûr, parce que ça veut dire qu'on ne sait pas ce que les gens apprécient si on n'a pas ce petit signal de qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'aime pas. Et on ne sait pas comment faire remonter les choses. Peut-être qu'on aurait d'autres moyens de le faire, mais c'est avant Google en quelque sorte. Bon, Google a d'autres méthodes, mais ces signaux sont tellement importants aujourd'hui, je ne sais pas si on reconnaîtrait l'Internet que ça donnerait sans. Peut-être, mais je ne sais pas. Et Denis Merveilleux a dit quelque chose de très intéressant aussi, une chose à laquelle je n'avais pas vraiment pensé. C'est, il dit, notre problème, en plus d'avoir au moins deux révolutions à gérer, c'est ça qui m'a intrigué, c'est qu'il y a deux révolutions, en fait. C'est Internet d'une part et le smartphone de l'autre. Et moi, je les associe souvent dans ma réflexion et dans ce que j'en pense, mais c'est vrai que c'est deux choses qui se sont additionnées. C'est d'une part la connexion du monde entier et d'autre part le fait que cette connexion devienne personnelle et disponible tout le temps, qui sont deux coups sur coups qui vont dans la même direction mais qui sont additionnés et qui accélèrent les choses. Et il dit aussi on ne peut pas attendre la prochaine génération pour trouver l'équilibre. C'est tellement urgent, tellement pressant qu'on ne peut pas laisser passer une génération pour qu'on s'y habitue en tant que société. Je ne suis pas sûr qu'on ait le choix. Peut-être qu'il faudra de toute façon que ça soit le foutoir jusqu'à ce que la prochaine génération qui a grandi avec arrive au pouvoir et nous remplace tous. Mais j'ai trouvé que cette réflexion sur le fait qu'il y ait vraiment deux révolutions consécutives qu'on ait à gérer, ce qui est quand même très rare. Généralement, les révolutions de ce type arrivent une à la fois. L'électricité, la radio, la télévision, c'est pas en 10 ans, quoi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment apte comme réflexion.
Ouais. Je pense que ne pas être esclave de la technologie, ça commence par, tu vois, arrêter toutes les notifications sur ton téléphone. C'est quelque chose que je n'ai pas réussi à faire, j'essaie de les limiter. Mais quand je vois l'espèce de sapin de Noël que le téléphone de ma fille est avec tous les trucs de Snap et de WhatsApp et de trucs, mais c'est incroyable, elle ne peut pas se concentrer plus d'une demi-seconde parce que d'un seul coup, tu as un nouveau truc qui arrive sur le téléphone, quoi. Et donc, je pense que si tu arrives à prendre la main sur tes notifications et que tu les enlèves, tu retrouves une partie de liberté qui est vraiment non négligeable.
Mais est-ce que ça, c'est pas un réflexe justement de nous vieux qui avons vécu sans, alors que des gens comme ta fille et les gens plus jeunes qui ont grandi avec, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Tu sais, un petit peu comme nous, quand on était jeunes, le truc qui hérissait nos parents, c'était le fait de passer des heures au téléphone. Ils trouvaient ça, mais invraisemblable. Pour eux, le téléphone, c'était « oui, bonjour, on se retrouve à quelle heure ? Ok, merci, au revoir. » Nous, on l'utilisait comme... Tu vois, comme si on était en face l'un de l'autre pour avoir des discussions qui duraient des heures. Mais on a grandi avec, nous c'était normal et ça nous a pas fait tellement de mal. Est-ce que tu es sûr que elle, ta fille qui a grandi avec, ça lui pose des problèmes ou est-ce que c'est juste comme ça qu'elle fonctionne, quoi ?
Bah, on l'a introduit à cette notion de... Tu peux dire, il y a une plage horaire pendant laquelle tu ne vas pas avoir de notification, de manière à ce que quand ses copines l'appellent à 3h du matin parce qu'elle est sur la côte est au collège et ses copines sont en Californie, donc il est minuit pour elle, bah, le coup de fil, ça ne la réveille pas. Quoi. Parce qu'en gros, elle dort...
Bon, ça, c'est un peu extrême quand même.
3-4 heures par nuit, ce n'est pas suffisant. Mais je pense que c'est ça, c'est comment tu arrives à vraiment... faire une utilisation maximale de la technologie sans en être victime, sans en être esclave. Et il y a un bouquin que je suis en train d'écouter en audiobook, parce que je ne lis plus maintenant, je fais de l'audiobook, parce que c'est ça la technologie. C'est le deuxième bouquin d'Edward Snowden, Permanent Record, donc le, je ne sais pas quel va être le titre en français, mais c'est Permanent Record en anglais. Et en fait, c'est une autobiographie et la première partie du bouquin, c'est sa propre découverte de la technologie. Et en fait, tu reviens dans le temps il te parle donc de sa première NES et de son premier ordinateur et du modem qui occupait la ligne, etc. etc. Et tu vois en fait comment en si peu de temps la durée de vie de Edward Snowden, le monde a évolué en termes de technologies qui sont disponibles, où ton téléphone est 1000 fois plus puissant que l'ordinateur qui a envoyé les astronautes américains sur la Lune. Mmh. Et c'est vraiment fascinant. Mmh. Et c'est fascinant au niveau possibilité, mais c'est aussi fascinant en termes d'impact sociétal.
Bon, donc l'équilibre, je pense que tout le monde arrive à la même conclusion. La seule problématique, c'est comment trouver cet équilibre. Ça, c'est où mettre la barre. Je crois que là, par contre, personne n'a la solution. C'est Mémoire vive au pluriel en français, le livre de Snowden. Et moi, je continue à trouver intéressant que 20%
Mémoire
des moins de 30 ans...
Mémoire vive pour Permanent Record.
Ouais. Bah, tu sais, c'est difficile à traduire, Permanent Record. Parce que permanent record, ça veut aussi dire que c'est quelque chose qui est, tu vois, le record dans le sens d'enregistrement informatique, peut-être. Tu vois, peut-être
oui, qu'il y a ce jeu. C'est pour ça, ça a du sens par rapport au bouquin. Ok.
Ouais. Okay. Moi, je trouve ça intéressant que les moins de 30 ans, il y a 20% de gens qui veulent vivre sans tech et plus de 30 ans, 10%. C'est peut-être parce qu'on est juste des vieux blasés. Bon, petite pause pour vous parler un petit peu différemment de cette question du soutien et de la pub, parce que j'ai eu beaucoup de retours sur la pub ces dernières semaines et c'est super, il faut que vous continuiez à les faire. D'une part, sur la nature des annonceurs, et j'ai essayé de répondre à la plupart des personnes, je prends en compte évidemment les retours, donc même les plus controversés. Donc merci de me faire ces retours, c'est hyper important pour moi parce que j'essaye des choses et quand on commence, hein, évidemment, c'est toujours difficile de faire parfaitement. Donc, je suis toujours preneur de retours et j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc, continuez surtout, même quand vous n'êtes pas content, je suis preneur. Et d'autre part, sur la quantité, alors là, je parlais de la qualité ou de la nature, mais sur la quantité, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes, je pense que la majorité, ça leur convient, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça faisait, ils avaient l'impression que ça faisait beaucoup d'interruptions. Et moi, en fait, je me suis dit, j'ai ajouté une minute de pub au début et ensuite je parlais des Patreons comme je le faisais avant. Donc je me suis dit, c'est raisonnable. Mais en même temps, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette petite minute du début donne une impression de plus grande présence substantielle de ce type de discussion dans l'émission. Et bien sûr, ce n'est pas l'intention. Moi, ce que je veux faire avec la pub, c'est c'est surtout pas de vous noyer. Donc, je vais modifier un petit peu les choses, pas au niveau de la pub, parce que ça, c'est une minute au début. Bon, bah, et parfois à la fin, mais ça, c'est la fin. Mais c'est déjà établi comme ça. Et puis, on ne peut pas vraiment, vraiment réduire. Et je pense que ça ne serait pas l'essentiel. Mais peut-être au niveau des discussions sur Patreon, comme je l'ai fait au début de cet épisode, donner les noms des gens pour lesquels je suis hyper reconnaissant de leur soutien, mais pas trop insister. Et puis, peut-être à la fin aussi, passer un petit peu plus rapidement et pas trop en parler trop longtemps, pas refaire tout le topo. Par contre, au milieu, il restera ce topo. Pourquoi ? Parce que il est hyper important pour moi que les gens comprennent que le Patreon reste le pilier essentiel du soutien de l'émission. Et c'est vrai que la raison pour laquelle j'ai insisté, peut-être un petit peu plus ces derniers temps, c'est que j'ai très peur que les gens se disent « Ah ben, il y a la pub, donc c'est bon, pas de problème. » La pub est là pour d'autres choses qui d'ailleurs sont en train de se décanter. Mais le pilier, se décanter ces semaines, ces mois-ci, je pense que vous aurez des infos là-dessus sur ce que ça va va m'apporter professionnellement. Mais pour moi, le pilier essentiel, c'est le Patreon, d'autant plus que c'est celui qui me donne le plus de force et le plus d'indépendance, et c'est de loin les revenus les plus importants. Donc c'est vrai que j'ai peut-être insisté un petit peu plus sur le Patreon, mais... Donc, je vais adapter, je vais continuer à apprendre et à toujours mieux faire, j'espère, dans tous ces domaines-là. Donc, comme je le disais, continuez à m'envoyer vos retours, c'est hyper important. Et bon, je vous avoue que l'essentiel des retours et la majorité est quand même très positive. Mais si vous avez des choses à dire, surtout, n'hésitez pas à venir les dire parce que ça m'aide à m'améliorer. Et si on me le dit pas, je sais pas. Donc, de préférence, dites-le gentiment, hein. Ça serait sympa. Certains le disent moins gentiment, mais moi, je fais du positivisme militant, donc je leur réponds gentiment quand même. Mais voilà, donc n'hésitez pas à venir me dire tout ce qui vous passe par la tête et vous pèse sur le cœur. Et puis, bien sûr, si vous voulez aussi soutenir l'émission de la meilleure manière possible, de la manière qui compte le plus dans ce modèle hybride, eh ben, n'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à aller sur patreon.com/rdvtech, ce qui, entre parenthèses, vous supprime la pub. Donc, en plus de faire une bonne action financière pour soutenir ce que vous aimez, eh ben, ça vous ôte un petit embêtement bêtage du pied si ça vous embête un petit peu. Et puis ça inclut ce petit passage au milieu, donc vraiment vous avez une émission la plus pure forme de l'émission. Merci en tout cas à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bon, on continue avec les news et rumeurs. D'abord, Facebook Pay qui a été dévoilé et qui va arriver très bientôt. Pour le moment, c'est pour acheter, c'est pas partout au monde, hein, mais je crois principalement aux États-Unis, mais acheter des choses, envoyer de l'argent à des amis, donner à des causes caritatives, etc. Et il y a Google, bon ça c'est un Facebook Pay dans l'ombre de Libra, ça a plus de signification, mais Google surtout va offrir en partenariat avec différentes banques des comptes en banque. Et du coup, ça, c'est un petit peu tout le monde, c'était attendu, mais toutes ces grandes sociétés qui s'engouffrent dans le domaine des services financiers. Jeff, toi, l'argent, ça te connaît, mais c'est pour des questions de données, j'imagine, non ? C'est ça ?
Bah, c'est la finance personnelle, c'est la partie que ni Google ni Facebook avaient touchée. Bon, on a parlé de Libra évidemment, et on sait que Libra n'a pas été bien reçu
ouais.
par le gouvernement américain et par la presse. Et donc, je trouve super fascinant au moment où tu as genre 25 ou 30 des États qui joignent. Le truc anti-monopoly ouais, là de
l'enquête
de Google,
ouais tout à fait ouais.
qui disent ah oh, bah puis en passant on va devenir une banque aussi, et que Facebook dit ah oh, bah oui bah, on va faire Facebook Pay, comme ça on aura vraiment toutes les infos, parce que c'est ça le truc qui leur manque, c'est la connaissance. Parce qu'imagine si tu as la pub, que tu vois que quelqu'un achète quelque chose et que tu peux traquer ensuite la transaction grâce à tes moyens de paiement, tu boucles la boucle de façon absolument incroyable.
Ah oui, c'est pas forcément pour savoir... Enfin, c'est évidemment pour savoir ce que les gens achètent, mais c'est peut-être aussi, comme tu le dis, pour confirmer qu'ils ont bien acheté un truc dont ils ont vu la pub. C'est
je pense
possiblement,
que
c'est,
oui. Effectivement, ouais, comme ça, sans que ça te fait de l'attribution, ce qui est toujours la chose la plus difficile à faire au niveau pub. Donc c'est fascinant pour moi qu'ils se lancent là-dedans. C'est encore notre petite française Fujisimo qui est responsable du projet. Donc elle monte, elle continue, et on est super fiers de ce qu'elle fait. Mais ça me semblait super intéressant que, en gros, Facebook dit ah, vous pouvez très bien nous investiguer, mais on va lancer Facebook Paiement.
Oui, il ne s'arrête pas, hein. Okay. Ça c'est sûr.
C'est logique. Quand tu as 2 milliards d'utilisateurs, tu essaies de leur fournir les produits dont ils ont besoin, et tu y vas, quoi.
Eh ben, on verra comment ça se développe. Je ressors l'histoire de Google qui a racheté Fitbit, qui a 2 semaines déjà, mais j'en profite parce que toi, tu as été un des early investors, un des investisseurs du début de Fitbit, et c'était une de tes grosses affaires de l'époque.
Ouais.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette histoire du rachat? Pour ceux qui ne se souviennent pas, Fitbit, qui fabrique de l'informatique portée, essentiellement des trackers de fitness, et qui a racheté Pebble, bref, un des gros acteurs, sans doute le plus gros, à part Google et Apple, de l'informatique portée, et qui a été racheté donc par Google, sans doute pour améliorer son système Wear OS qu'il développe depuis un moment.
Donc, et en termes de disclosure, donc ça fait très longtemps que mon fonds a distribué et vendu ses parts. Donc maintenant, je suis un investisseur comme toi et moi. Donc j'ai quelques stocks Fitbit sur le marché, mais j'ai pas d'informations spécifiques. Mais je dirais en tant qu'acteur du début et puis maintenant quelqu'un qui regarde ce qui se passe sur le marché. En gros, Fitbit, on l'a mis sur le marché public à 4 milliards, c'est monté à 10 milliards et puis après l'Apple Watch est arrivé. Ils ont eu quelques soucis techniques dans leur passage à la smartwatch et donc la stock est passée de 10 milliards à moins d'un milliard. L'action. Merci, est passé de 10 milliards à 1 milliard. Et donc, le fait que Google rachète Fitbit pour 2 milliards et des bananes, et pour être très clair, ils ont signé les papiers, mais ça va prendre énormément de temps à ce que cette transaction se fasse. À mon avis, ça ne va pas se fermer avant la fin du mois de février ou mars, parce que le gouvernement a déjà dit « bah attends, avec Fitbit, Google va avoir accès à toutes les données des 25 ou 30 millions d'utilisateurs de Fitbit, ça ne va pas du tout ». Donc il va y avoir des investigations avant que la transaction puisse effectivement se mettre en place. Je pense que c'est la première fois que Fitbit va avoir la capacité de vraiment développer des produits et des services qui peuvent être en compétition avec Apple, parce que Apple a une balance sheet qui est quasiment illimitée. Fitbit, c'était pas le cas, et grâce au compte en banque de Google, on va voir en fait des produits qui vont pouvoir être compétitifs. Ils n'auront pas forcément la même pression sur les marges. Et donc, je pense que ça va être super intéressant. Et personnellement, j'ai toujours... Je préfère les produits Fitbit aux produits Apple, parce que le Versa 2 que j'ai au poignet aujourd'hui me permet de faire ce que j'ai à faire en le rechargeant une fois tous les 6 jours. Et que si tu veux vraiment avoir un suivi précis de comment tu dors, etc., tu ne peux pas avoir un truc que tu dois recharger toutes les 12 heures, quoi, ou toutes les 18 heures.
D'accord. Donc pour toi, effectivement, c'est l'intérêt est pour Fitbit, pour continuer à développer ses produits en pouvant faire concurrence à Apple plus sérieusement. Donc c'est une bonne chose pour Fitbit. C'est intéressant. Je n'avais pas vu la chose comme ça. Moi, j'avais plus vu Google dévorer Fitbit. Mais ce n'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Même si c'est le cas, même si c'est Fitbit by Google, il y a une expertise chez Fitbit qui va pouvoir se développer comme elle ne le pouvait pas avant.
Si tu veux, tu as deux façons de voir les choses. Tu as le verre à moitié plein qui est ça va finalement donner les moyens à Fitbit et ça va être super. Tu as le verre à moitié vide qui est Google va phagocyter Fitbit parce que Google n'a pas un bon track record d'acquisition. Tu vois un peu ce qui s'est passé avec Nest. Est-ce que Fitbit va pouvoir garder son indépendance et pouvoir continuer à sortir des produits tels qu'ils l'ont fait depuis depuis 2008, parce que c'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier chèque à Fitbit. Je pense que l'avenir le dira, mais James,
l'opportunité est là, ouais.
James Park, le CEO, semblait super excité. Et je pense que globalement, c'est une bonne chose pour Fitbit que d'être acquis par Google. Ça a du sens. Et je pense qu'ils sont capables de vraiment en tirer parti.
Ouais, et c'est sûr que la route sans un partenaire comme Google semblait, en tout cas d'après la tendance des dernières années, pas hyper propice. Donc oui, ça, c'est, je comprends qu'ils soient contents. On sait que Instagram copie avec succès tous ses concurrents. Et bien là, c'est TikTok qui y passe avec une fonctionnalité qui s'appelle Reels, R-E-E-L-S, donc bobine pour Instagram, qui est arrivée, je crois, uniquement au Brésil en test. Mais c'est vraiment TikTok dans Instagram. Et on sait à quel point ils ont fait du mal à Snapchat avec les stories, qui sont devenues beaucoup plus importantes sur Instagram qu'elles ne l'étaient sur Snapchat. À voir s'ils vont réussir à voler la vedette à TikTok. Pendant le même temps, Line, qui est énorme au Japon et en Asie, est en train de s'allier à Yahoo Japan, plus que s'allier, même faire une fusion. Et on pense, alors on ne sait pas exactement, c'est la concurrence des applications de ce type-là. Line, c'est un petit peu une application de messagerie privée plus, qui permet de faire plein de choses en plus des messageries privées. Et donc, leur business devrait fusionner d'ici octobre 2020, mais on pense que c'est parce qu'il y a la pression des autres acteurs du style TikTok, qui ont énormément de popularité dans tous les pays du monde aujourd'hui. Et enfin, ByteDance, qui est le développeur de TikTok, serait en train de discuter avec les studio de musique pour lancer dès le mois de décembre un service de streaming de musique dans certains pays uniquement au début, en test évidemment. Mais donc là encore, c'est des gens qui ne s'arrêtent pas, quoi. ByteDance, ils sont en train de travailler à se développer de plus en plus et ils ne se reposent pas sur le succès de TikTok, ce que peut-être Snap a fait avec le succès de Snapchat. Et même s'ils ne sont pas non plus à plaindre aujourd'hui, leur succès, leur croissance a été assez rapidement arrêté par l'ogre Facebook qui les a pourchassés avec Instagram. Quelque chose à ajouter sur ces sujets-là, où on parle de MacBook Pro ?
Oh, MacBook Pro.
D'accord. Apple a annoncé relativement discrètement son nouveau MacBook Pro, le 16 pouces, qui a exactement la même taille de machine que le 15 pouces. Donc, c'est leur MacBook Pro haut de gamme. Nouveau processeur, nouveau haut-parleur, nouveau plein de choses et surtout, nouveau clavier. Le clavier étant le point d'achoppement de tous les utilisateurs de MacBook Pro de ces dernières années. Je crois qu'il avait été remplacé fin 2015. Moi, j'ai un MacBook Pro 15 pouces avec ce clavier, avec lequel j'ai eu quelques problèmes, mais rien de grave. Mais je crois que j'ai eu de la chance parce qu'il y a énormément de gens qui ont eu des problèmes. Vous savez, c'est ce fameux clavier mécanisme papillon qui se coince, les touches se coincent et dès qu'il y a un petit peu de poussière qui rentre dans le clavier, et ça arrive souvent, et donc ils ont changé le design ou revu le design 3 fois, ça n'a pas corrigé tous les problèmes. Bref, là, ils ont entièrement revu le design, ils ont même sorti le mécanisme papillon, ils ont un mécanisme ciseau qui est revenu avec un équivalent du clavier Magic Keyboard qui est existant sur leur Mac classique, donc c'est le clavier pour ordinateur de bureau, qu'ils ont adapté pour les ordinateurs portables, ce qui est pratique parce que ça leur permet de dire en fait, le clavier d'avant, c'est pas qu'il n'était pas bien, c'est juste qu'on en a trouvé un encore mieux. Donc, c'est pour ça qu'on l'a remplacé. Donc, il sauve un petit peu la face. Et le monde de la tech, le petit monde de la tech et des gens très obsédés par leurs appareils a été visiblement très satisfait dans les tests de ce nouveau clavier. J'ajoute sur Apple, avant de te donner la parole sur ce clavier, qu'ils seraient possiblement en train de réfléchir à un service d'abonnement qui réunirait tous leurs services d'abonnement existants, Apple TV+, Apple Music, Apple News, Apple Arcade peut-être. Et on a eu des informations sur Apple News+, qui aurait Alors, c'est certaines sources qui auraient acquis aux États-Unis 200 000 abonnés très rapidement, mais qui depuis n'en auraient quasiment pas ajouté. Et donc, les magazines qui intègrent Apple News Plus, qui est un service d'abonnement aux magazines, se disent, certains disent qu'ils ne sont pas contents, d'autres disent, bon, bah, c'est à peu près ce qu'on attendait. Mais le problème, c'est que s'il y a un service d'abonnement qui réunit tout, ça risque d'envoyer encore moins d'argent au magazine, puisque Apple News Plus serait intégré à cet abonnement général, à voir le prix que ça coûterait. Mais Apple News Plus coûte déjà 10 €, 10 dollars en tout cas. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi. Mais donc, ces claviers, certains ont dit c'est la Johnny Ivisation du clavier. Je crois que c'est pas hyper juste de dire ça. Mais dans le monde des fans d'Apple, dont je crois tu fais encore partie, Jeff, comme je le disais, tout le monde pousse un ouf de soulagement, quoi, là.
Non, je pense que je suis pas un fanboy aussi.
J'ai
aussi
dit fan, hein. J'ai pas dit fanboy, j'ai dit fan. Non, il y a une différence.
Non, j'étais super malheureux quand Apple a annoncé la fin du MacBook Pro 17 pouces, qui était ma machine favorite. Et donc, j'étais passé sur un 15 pouces parce que j'étais forcé, et puis après j'étais passé sur le nouveau MacBook Pro où je déteste le clavier. Et donc quand j'ai reçu l'email vendredi à propos du nouveau clavier du 16 pouces, j'ai failli littéralement l'acheter en 3 minutes, et après je me suis dit, je vais quand même tester le clavier, parce qu'il faut pas déconner quand même, c'est quand même une babasse qui coûte 3000 boules, donc faut pas exagérer. Mais je suis super excité d'avoir un écran plus large, un vrai clavier, parce que c'est ma machine de prédilection. Et donc, ouais, ça va être génial. Et puis, ils ont aussi mis une config qui est quand même assez blindée. Je veux dire, tu peux monter jusqu'à 8 cores sur le processeur, tu peux monter jusqu'à...
Il y a genre 64. 8 téra de stockage, ce qui est complètement ridicule. Enfin,
c'est ridicule, sauf si tu fais de la production de vidéos, des choses comme ça. Mais bon, un petit téraoctet de disque SSD, ça fait du bien. Et puis tu peux monter à 64 gigs de mémoire. Bon, c'est peut-être pas à peine.
Parce que oui,
bon,
là, je crois que... Pour...
Ça bouffe de la mémoire World of Warcraft, mais peut-être pas tant ça. Mais bon, ça va être super.
Ouais, c'est donc l'excuse qu'il te fallait pour redevenir... Du coup, là, je vais te poser une question un petit peu plus compliquée. Est-ce que du coup, tu as l'impression que le problème que tu avais avec Apple ces derniers temps, qui fait que tu étais moins fan qu'à l'époque, encore une fois, je n'ai pas dit fanboy, est-ce que là, c'est un petit peu bon? Enfin, là, il règle un petit peu l'un des problèmes qui était quand même une tache sur leur drapeau, quoi.
Oui et non. Je pense que le problème que j'ai avec Apple, c'est que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas sorti un produit révolutionnaire. Depuis des années, ils ont sorti des évolutions, des produits qui sont, tu vois, sympas. Le dernier, le machin iPhone 11, machin truc, là, je dis objectivement, je n'avais pas besoin de l'acheter. Parce que la différence entre le 11 et le 10, c'est le... Tu vois, je vois la différence que j'ai remplacé le 7 que ma femme utilisait toujours, et d'ailleurs elle m'a haï pendant une demi-journée parce que son habitude de cliquer sur le bouton, il n'y a plus de bouton. Donc, tu vois, il y a une grosse différence entre un 7 et un 10 ou un 11, mais entre une génération et son suivant, pas vraiment. Et c'est ça, en fait, mon problème fondamentalement, c'est que Apple n'a pas sorti des produits qui font rêver les gens. Alors là, j'imagine que tu as parlé il y a deux semaines quand ils ont annoncé donc leur plan pour les goggles, les lunettes
de réalité augmentée, ouais.
Les lunettes de réalité virtuelle. Ça, c'est intéressant. On va voir ce que Apple fait, parce que c'est un vrai challenge au niveau technologique. On va voir ce que ça va donner en termes d'interface utilisateur, on va voir ce que ça va donner en termes d'impact sociétal, parce que tu te rappelles quand Google a sorti les Google Glass, moi je m'en rappellerai toujours, c'était il y a 3, 4, 5 ans maintenant. Je marchais avec mes Google Glass dans San Francisco, et je traverse la rue et il y a un mec qui me regarde et qui me dit « Glasshole !» et je faisais rien, quoi. J'étais juste avec mes Google Glasses. Donc, c'était pas acceptable. Donc, on va voir le travail que Apple va faire. Et c'est ça, en fait, pour moi, ce qui manque aujourd'hui, c'est cette habilité qui était unique du temps de Steve Jobs, où j'étais à ce moment-là un fanboy, de révolutionner avec des produits marchés, qui étaient incroyables, que ce soit avec l'iPhone, que ce soit avec l'iPad, que ce soit avec les produits qu'ils avaient. Là, c'est beaucoup plus « bah tiens, c'est une nouvelle version, et machin, c'est sympa ». Alors que là, putain, mais le MacBook Pro 16 pouces, ça va être géant, quoi.
Mmh. Donc, oui, c'est intéressant, effectivement. Donc, c'est cette envie que la boîte te fasse rêver avec des produits qui te surprennent, quoi. Donc, c'est alors pas juste une question de produits tout court. C'est une question de sentiment.
Alors que tu vois, j'ai dû lâcher un paquet de pognon parce que toute l'équipe est passée de... On était sur l'ancienne génération des MacBook Pro, et puis il y en a un qui est parti en vrille, et comme on est tous sur la même configuration avec les mêmes câbles, les mêmes machins, les mêmes trucs, tout le monde, parce qu'on avait, des babas qui dataient de 2015 ou 2014, donc on a upgradé tout le monde sur les MacBook Pro nouvelle génération, et franchement ça m'a fait chier plus qu'autre chose, parce que c'était pas du bon produit, ça marchait pas bien, il y avait des problèmes de connectivité, tu devais mettre du USB-C partout, et franchement c'était pas excitant pour de rond.
Ouais.
Alors que là ouais, excité, ouais.
Oui. Bon, enfin, d'accord, mais on sent qu'il y a quand même de la subjectivité, parce que objectivement, la seule différence, c'est qu'il y a un pouce de plus sur l'écran et un clavier correct. Le reste, c'est exactement le même que celui que tu as aujourd'hui. Donc,
tu sais combien je tends, je passe à taper sur un putain de clavier.
Oui, non, d'accord, le clavier, je suis d'accord.
No joke. Mais
Monsieur Jeff C. Le Google Glass, c'était 2013. Ça fait 2013, donc un peu plus de 5 ans, ouais. Mais moi, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, tu sais, c'est marrant, Google Glass, ça a l'air tellement ancien. Bon, bref.
Rappelle-toi de ce que tu utilisais comme téléphone. En fait, c'est ça, tu te repositionnes sur quel téléphone tu avais à ce moment-là.
Ça devait être quoi, l'iPhone 5, peut-être, quelque chose comme ça. Je ne sais plus.
Oh.
Ça devait être le 5S, puisque c'est 2012, le 5. Donc, c'était le 5S, 5S voire 6. Oh ah ouais, quand même.
Ouais, parce que... parce qu'on parlait de l'iPhone 4 dans le premier épisode du Rendez-vous Tech.
Oh, sérieux ? Non, ouais. mais non, c'était 2009 le Rendez-vous Tech, début 2009. On pouvait pas parler de l'iPhone 4. On parlait le titre du premier épisode, je crois que c'est Obama Berry, parce que c'était Barack Obama et son BlackBerry qu'il est obligé d'utiliser. Il est pas content parce qu'il voudrait un iPhone. Mais ah, je sais plus, peut-être
pourtant,
que...
Si, il me semblait que... Parce que je l'avais écouté aux alentours des 10 ans, et je me pissais dessus.
Parce qu'on parlait de l'iPhone 4. Et
je crois qu'à un moment, je parlais de mon excitation pour les formes courbées de l'iPhone 4.
Écoute, l'iPhone 3GS est sorti en 2009 et l'émission a été lancée en septembre 2009. Donc, tu as dû écouter un épisode un tout petit peu plus récent.
Parce que
le 4, ça devait être 2010, ouais. Le 4, okay. ça devait être 2010. Mais pas loin, hein. On est effectivement dans ces eaux-là. Donc, bon, bref. Ouais. Google Glass, c'était...
Ça ne nous rajeunit pas, tout ça.
Ça ne nous rajeunit pas, c'est sûr. Quelques petites news rapides. D'abord, le CSA va pouvoir réguler les plateformes de SVOD en ligne, comme Netflix ou Disney+. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, ce n'est pas le CSA eux-mêmes, c'est l'ARCOM, l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique, c'est-à-dire le CSA et Adopi qui vont fusionner en 2020. Et qu'est-ce que ça veut dire réguler ? C'est pour des choses spécifiques dans le cadre des plateformes en ligne, c'est-à-dire que ces plateformes doivent bien sûr participer au financement de la production audiovisuelle en France, comme leurs équivalents classiques, les chaînes hertziennes, et ils doivent réserver 30% de leur catalogue aux productions européennes. Là aussi, c'est quelque chose en fait qui est déjà en place. Donc, ça ne va pas changer grand chose. Mais pour moi, qui suis toujours en train de naviguer entre régulation et taxes et innovation et liberté, pour moi, ça me paraît cohérent si on veut que la production française et européenne puisse tenir face aux mastodontes américains que nous connaissons, que j'adore aussi, mais je crois que c'est un bon équilibre là-dedans. On parle de temps en temps de ces petites de ces logiciels alternatifs. Brave, c'est un navigateur open source de grande qualité. Si vous cherchez un navigateur que vous aimez bien, enfin un navigateur, une alternative à Chrome, et que vous n'êtes pas trop client de Firefox pour une raison ou une autre, pas trop client d'Opera pour une raison ou une autre, testez Brave. Il y a plein de fonctionnalités que je ne vais pas détailler ici, mais il était disponible en bêta depuis un moment. Là, il est lancé en version 1.0. Il fait beaucoup de focalisation sur la vie privée, et c'est une nouvelle alternative intéressante qui vient se présenter dans le domaine des navigateurs, qui est si important. La Gigafactory 4, l'usine Tesla européenne, s'implémentera en Allemagne. On avait pensé pendant un moment qu'elle viendrait peut-être en France. Bon, depuis quelques temps, on savait que ça serait l'Allemagne, mais là, c'est confirmé. Elon Musk a confirmé que ça serait bien l'Allemagne, mais bon, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont fans de Tesla de toute façon, parce que ça veut dire que les voitures n'auront plus besoin d'être importées des États-Unis, elles seront fabriquées directement en Europe, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et enfin, dernière chose, dernier sujet, vous avez sans doute entendu parler de ce bug, ou en tout cas de cette chose qu'on a découvert dans l'application Facebook sur iOS, selon laquelle Facebook utiliserait votre caméra pour vous regarder pendant que vous utilisez Facebook. Alors, je suis le premier à reprocher plein de choses à Facebook et aux autres GAFAM quand c'est nécessaire. Là, vraiment, c'était un bug, quoi. C'était la caméra qui était activée pour une raison qui n'était pas compréhensible. C'était la caméra, en plus, pas de face, mais de derrière. Le bug est déjà corrigé. Donc, si vous avez paniqué parce que Facebook vous regarde pendant que vous utilisez l'app, sachez que ce coup-ci, c'est pas justifié. Il n'y avait pas vraiment de raison. Facebook ne vous regarde pas. Ils font plein de choses. Ils vous suivent à la trace, mais pas avec la caméra de votre smartphone. Ça n'est pas le cas. Et voilà pour cet épisode du Rendez-vous Tech qui arrive à son terme. Du coup, je remercie très chaleureusement Jeff d'avoir été avec nous. Vous savez, il est minuit ici, on enregistre lundi soir. Je suis très fatigué après une journée avec le petit, bien sûr, donc j'en perds mon français. Mais Jeff, lui, ne le perd pas, donc il peut nous dire où on peut le retrouver sur Internet quand il n'est pas dans le Rendez-vous Tech. Où est-ce qu'on te retrouve, Jeff ? Ou alors, peut-être qu'on ne te retrouve pas, tu as disparu, tu t'es muté, peut-être ? Bah, je sais pas, peut-être que Jeff, on ne le retrouve pas, il a disparu, je sais pas ce qui se passe, c'est son Mac qui lui joue des tours, donc vous savez quoi, je vais le dire pour lui, il est
at Jeff. Ça fait 3 minutes que je parle avec le bouton mute on.
Bah oui, c'est ce que je disais, d'accord, tu es toujours là.
Je suis toujours là, désolé. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, je ne parle pas beaucoup français quand je ne suis pas sur le Rendez-vous Tech, mais vous pouvez me suivre en anglais sur Twitter. Je suis at Jeff, J-E-F-F.
L'une de ces URL, l'un de ces comptes Twitter avec un prénom tellement rare et tellement désiré.
Que tout le monde pense que c'est Jeff Bezos, et donc c'est vachement pénible. Parce que j'arrête pas d'avoir des mecs qui me tweetent en disant « Putain, Amazon n'a pas livré le truc qu'il fallait, je vais t'attaquer.
» Ah ça, Jeff Bezos, je ne sais pas. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu mets des filtres parce que ça doit rendre Twitter inutilisable.
Ouais, ça rend le... En fait, je ne fais attention à Twitter que quand je tweete, parce que sinon, c'est n'importe quoi.
D'accord, effectivement.
C'est le gros problème des gens qui ont leur prénom, ont un prénom assez, assez courant, comme Jeff. Donc, je ne suis pas Jeff Bezos sur Twitter, je suis Jeff Clay.
Bon, écoute, du coup, je ne suis peut-être pas si mécontent de ne pas avoir @Patrick et d'avoir dû trouver, tu vois, de l'adversivité. Non, de l'adversité. L'adversité, merci. Tu vois que tu parles français. De l'adversité naît l'inventivité. Et c'est comme ça que j'ai créé NotPatrick, cette persona qui me suit depuis tant d'années maintenant, et je suis NotPatrick un petit peu partout, parce que Patrick était déjà pris, donc d'une certaine manière...
Par un copain à moi.
Mais que j'ai, que j'ai détesté pendant des mois et des années, mais maintenant bon.
Mais vous êtes jamais rencontré. Faudrait quand même qu'on fasse la rencontre de Patrick et notre Patrick.
Ça serait grandiose. J'espère que ça ferait pas annihiler l'univers. Quand voilà,
exactement. C'est la matière et l'antimatière qui se rencontrent et d'un seul coup, paf.
Écoute, si un jour je suis de passage dans la Silicon Valley, oui, certainement, il faudrait que je rencontre Patrick.
Patrick est hollandais, donc il habite à Amsterdam.
Ah bon, bah écoute, du coup une raison d'aller de plus d'aller à Amsterdam. Très bien, on se retrouvera un jour là-bas et on verra ce qui se passe quand Patrick rencontre notre Patrick. Ça serait
parfait. Ce serait grandiose. Ça vaudrait le coup. Je viendrai pour prendre la photo.
Très bien, on fera ça. Et donc je suis notre Patrick sur Twitter, comme vous l'avez compris. Je suis également notre Patrick sur Facebook et Instagram. Et vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr, le lieu où vous retrouvez toutes mes productions, dont le rendez-vous jeu également. On a beaucoup de choses dont on parle sur le rendez-vous jeu parce que c'est la période des grandes sorties. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à cette émission également ou à commenter tout simplement le rendez-vous tech sur frenchspin.fr. Si on a dit des choses intéressantes, justes ou erronées, n'hésitez pas à venir nous le dire, comme je le dis à chaque fois. Et enfin, si vous appréciez l'émission, si vous l'aimez bien et si vous voulez la soutenir, n'hésitez pas à passer sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et vous pourrez non seulement soutenir l'émission, mais en plus avoir des bonus et des trucs fort sympathiques. Vous pouvez voir tout ça sur le site. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous !